demandé que vous avez bien mangé, ça s'est bien passé. Alors, ce matin, je vous laisse retourner dans vos chambres tout de suite, mais nous allons quand même faire une petite lecture d'un texte. Romains 4, versets 13 à 25, au sujet d'Abraham. Je lis dans la version La Colombe. Romains 4, verset 13. Ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance. Voilà encore le mot espérance qui revient. Il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah, déjà atteint par la mort, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté à justice », c'est aussi à cause de nous à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Et vous avez ensuite une lecture que je vous propose dans Deutéronome 3, versets 23 à 29. Et puis vous pourriez ajouter Nombre 20. Versets 7 à 13, pour avoir la réponse claire. Deutéronome 3, 23 à 29, Nombre 20, versets 7 à 13. Deux Rois, chapitre 20, versets 1 à 21, et 1 Chronique, 29, 15. Où vous verrez qu'il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer toujours ici-bas. La traduction d'Arbé est très claire là-dessus. il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer toujours ici-bas. C'est pourquoi il nous faut être prêts. Alors, les questions suggérées, quelle place l'espérance a-t-elle occupée dans la vie d'Abraham? La deuxième, pourquoi Moïse ne fut-il pas exaucé dans son espérance? Et vous avez les réponses dans les textes que j'ai cités. Et puis, la troisième question, est-il juste de demander à Dieu dans la maladie un prolongement de jours? Ça, on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'histoire de quel roi? Ézéchias. Ô Dieu, nous te recommandons nos bien-aimés à ta grâce et que dans la solitude des chambres, tu te révèles à chaque âme, à chaque cœur, que tu parles à la conscience de tous, afin que ce temps passé à l'écart nous permette de recevoir la bénédiction que tu avais dans ton cœur pour chacun de nous. Ouvre nos cœurs et que de ton sanctuaire, tes pensées descendent dans nos cœurs pour ta seule gloire. En Jésus-Christ. Amen. Alors, nous vous retrouvons après votre demi-heure et votre demi-heure de partage. Ici dans la salle. Bien, chers amis, nous sommes déjà arrivés à ce 11 octobre et je vous rappelle ce mot d'ordre qui m'a été donné. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. J'ai été encouragé ce matin à la sortie parce qu'une personne m'a dit « Ce mot d'ordre, c'était juste ce qu'il fallait pour moi aujourd'hui. » Parce que c'est toujours très important et très grave pour un serviteur de Dieu de donner une parole dans un groupe où vous êtes 80 au moins. Et alors, pour que cela réponde aux besoins de tous les cœurs, c'est pas moi qui peux faire ça. Il faut que je me tienne devant Dieu dans sa crainte, dans le tremblement, pour lui dire, qu'as-tu à dire pour que ça rejoigne les cœurs et les consciences. Alors, j'étais heureux de savoir qu'au moins une personne pouvait dire, c'était pour moi. Car c'est comme cela qu'on doit prendre la parole. Elle est pour nous. Elle est dans le livre, mais ce livre, il nous a été donné comme la parole de Dieu. Et quand nous la lisons, quand nous l'entendons, nous devons nous sentir concernés. Et j'étais heureux de voir au moins une âme qui se sentit concernée par ce texte. Et maintenant, nous allons simplement entendre le rapport des athées. Et puis, je vous donnerai le message après. Je suis très reconnaissant d'avoir pu vous entendre et de voir que vous avez travaillé en cherchant les réponses à ces diverses questions. Qu'est-ce que je pourrais dire? Quelle place l'espérance a-t-elle occupée dans la vie d'Abraham? Je crois que j'aurais pu dire plutôt quelle place l'espérance occupe-t-elle dans nos vies? C'est comme ça que nous allons terminer. On a donné des exemples d'hommes qui ont passé par l'espérance, qui ont connu l'espérance. Et ce qu'on remarque, c'est que tous ces hommes étaient des hommes aux mêmes passions que nous. Ils avaient des qualités, mais ils ont eu aussi leurs faiblesses. Même Moïse, qui était patient, eh bien, il n'a pas été toujours dans la ligne du Seigneur. Mais ce que je voudrais souligner, est-ce que le Seigneur lui en a voulu ? Pas du tout. Quand vous lisez les psaumes, psaume 106, psaume 105, il est dit que si Moïse, son élu, ne s'était pas tenu à la brèche jour et nuit devant Dieu, il aurait détruit le peuple. Et quand il le fait monter sur la montagne, à 120 ans, c'est quelque chose de faire une ascension, d'aller sur le Pisga. Eh bien, voilà le mourant qui monte. Mais il n'est pas mourant. Il arrive là-haut, et puis, qu'est-ce qui se passe? Il regarde le pays, ce pays où Israël va être si infidèle, où il aurait eu toutes sortes de misères. Le Seigneur lui a enlevé tout ce fardeau du peuple, il l'a mis sur Josué, et Moïse voit les choses. Il voit quand même le pays, et chose admirable, comme le disent les juifs, les rabbins, il meurt dans ce qu'on appelle un baiser de Dieu. Hein? Le Seigneur a soufflé le souffle pour Adam pour la première fois, puis maintenant, il a dit que c'est le Seigneur qui l'enterra. Il meurt dans les bras de Dieu et le Seigneur l'enterra. Mourir dans un baiser de Dieu. Alors que nous vivions, que nous mourions, nous avons à glorifier Dieu. Et puis à se souvenir toujours que Dieu est un Dieu de grâce. Il refuse de nous répondre à un moment donné, mais il nous éclaire, ne me parle plus de cette affaire. Il y a des choses où il nous montre que ce n'est plus à prier pour cela. Il y a assez d'autres sujets. Maintenant, je souligne ça, quelle place l'espérance occupe-t-elle dans nos vies? J'ai vu celle d'Abraham, la place de l'espérance dans la vie d'Abraham. Dans la vie de Moïse, il a pu espérer certaines choses. Alors, je dis ceci, est-ce que nous devons insister auprès de Dieu sur une chose que le Seigneur ne veut pas pour nous? J'ai connu des gens qui ont espéré qu'ils ne passeraient pas par la mort et qu'ils seraient enlevés. Et ils ont tellement espéré cela que quand la maladie les a saisis, et c'était des chrétiens très vivant, très spirituel, ils n'ont pas eu une mort à la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont douté. Ils ont douté de cette promesse. Mais ce n'est pas parce que je meurs que le retour du Seigneur ne se fera pas. Comprenez-vous? Alors il nous faut être souples dans la volonté de Dieu. Et puis ne pas voir la mort comme une catastrophe. Si je meurs, je meurs dans l'espérance de la résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, la question pour nous, bien, c'est quelle que soit notre fin, que notre fin soit à la gloire de Dieu. Et je suis heureux que le verset ait été cité dans Philippiens. Paul nous dit que lui, il n'est plus préoccupé par cela. Il y a d'autres choses qui peuvent nous préoccuper, qui peuvent être nos sujets de prière. Mais il nous dit dans Philippiens 1, et je vous le cite encore, « Qu'importe, je sais que tout cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon mon ardent désir. » et mon espérance. Je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera magnifié dans mon corps avec une pleine espérance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre, c'est Christ. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je faire? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Alors dans nos prières, eh bien, en nous souvenant de Moïse, en nous souvenant de Paul, soyons inspirés. Maintenant, dans la troisième question, est-il juste de demander à Dieu, dans la maladie, un prolongement de jours? Je souligne que nous devons être soumis à la volonté de Dieu. Ce que lui veut est toujours le meilleur. Et puis alors, nous avons souligné cela, que il y a dans Jacques cet appel aux anciens. Quand quelqu'un est malade, et comment les anciens peuvent prier. Mais maintenant, je voudrais juste que vous puissiez noter quelques questions pour terminer au sujet de l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? Première question. Est-ce que dans cette retraite, vous avez été amené à saisir mieux ce qu'était l'espérance? Nous avons dit que Paul l'avait résumé par un mot. L'espérance, c'est Jésus. C'est une personne. Deuxième question. Quels sont les caractères essentiels de l'espérance? Troisième question. Devons-nous attendre d'autres révélations de l'avenir que celle des prophéties de la Bible? Est-ce que nous devons attendre d'autres révélations de l'avenir que celles des prophéties de la Bible? Quatrième question. Devons-nous attendre un accomplissement littéral du retour du Christ? Ou bien est-ce que le retour de Christ serait simplement la conversion du monde? Spirituellement, comme certains prétendent, il faut qu'on ait des convictions là-dessus. Devons-nous attendre un accomplissement littéral du retour du Christ? Lisez la parole jusqu'à ce que vous ayez la conviction. Cinquième question, pourquoi Jésus-Christ doit-il revenir? Sixième question, pour quelle raison le message du retour du Christ est-il aimé des uns et redouté des autres? Pour quelle raison, oui? Au pluriel. Le message du retour du Christ est-il aimé des uns et redouté des autres? Et si vous voulez un verset, Ésaïe 21, versets 11 à 12. Qu'est-ce que nous lisons là? Je vous le cite seulement. La question à la sentinelle. L'oracle touchant Dumas, il me crie de Séhir, sentinelle, à quoi en est la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous. Revenez, venez. Pour le croyant, le matin vient, alors c'est une joie. Le croyant est prêt. On doit être prêt pour son départ. Alors c'est une glorieuse espérance. Mais, si nous ne sommes pas au Seigneur, qu'est-ce qui vient sur le monde ? La nuit. Et la nuit qui vient, c'est la nuit en laquelle personne ne peut plus travailler. Et c'est pourquoi vous avez ce fameux verset qui a été mon thème alors que j'étais au Vietnam et au Cambodge il y a plusieurs années. Dans Jérémie, il est dit « Donnez gloire à l'Éternel avant quoi ? Que viennent les ténèbres et que vos pieds se heurtent contre les montagnes de la nuit. Donnez gloire à l'Éternel. » Cette brochure, vous la lisez là. Où on avait demandé, soit au Vietnam, soit au Cambodge, qu'elle soit, que ce message soit imprimé. Avant la nuit. Comment ? C'est Jérémie. Qu'est-ce que j'ai dit ? 13. Verset 16. Donnez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres et avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes du crépuscule. Vous attendrez la lumière et il en fera une ombre de mort et la réduira en obscurité profonde. Et si vous n'écoutez pas, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil. Et mon œil pleurera amèrement et se fondra en larmes, car le troupeau de l'Éternel ira en captivité. Les paroles du Seigneur doivent s'accomplir. Alors, pour les uns, c'est la délivrance, mais pour d'autres, ce sera le jugement. Une septième question, la dernière que je vous laisse. Pourquoi le message du retour de Christ est-il plus actuel que jamais? Et alors, je vous ai offert à plusieurs reprises ce petit livre, pour ceux qui ne l'avaient pas, Jésus revient-tu prêt? Et il y a dans ce petit livre plusieurs définitions claires, selon l'Écriture, au sujet de l'espérance. Jésus revient, es-tu prêt? Alors, je veux espérer que, malgré toutes nos insuffisances, vous aurez reçu quelques biens de cette retraite. L'heure est venue maintenant pour que je donne la parole à Josaphat. qui, du haut de sa gloire, descend pour moi, pécheur. Jésus, mon cœur désire, proclamer ton amour, sans cesse le redire, jusqu'à mon dernier jour. Ô précieuse histoire, à tous il tend la main, sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle, ô mon frère, répondant à sa voix, apporte ta misère à l'ombre de la croix. Ô chère et sainte histoire, pauvre enfant, racheté par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut, devant ta face, comblé de ton amour, je redirai ta grâce jusqu'à mon dernier jour. Ô chère et sainte histoire, le Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi, pécheur. Les trois strophes du cantique 32.
Sa gloire descend pour moi. Eh bien, chers amis, quand pensez-vous que le Seigneur puisse nous parler? Figurez-vous que j'ai noté un texte que je pense vous lire et sur lequel nous allons méditer quelques instants, mais tout à l'heure, après une heure dix, j'ai été possédé par une autre parole qui s'est imposée à moi et qui reste toujours dans l'espérance. Elle se trouve dans Zacharie. Alors que je pliais mes bagages, ça s'est imposé tout à coup. Zacharie, chapitre 9. Quelle est la lecture que j'allais vous faire et que nous ferons? C'est chapitre 12 des Actes. Et qu'est-ce qu'il y a dans chapitre 12 des Actes? Un homme important qui est fait prisonnier. Hein? Et il n'y a plus d'espérance pour lui, il est condamné à mort. Par qui? Par le roi qui a insulté même Jésus, le roi Hérode. Pierre est condamné à mort. Il est lié de chaînes au fond de la prison et on a multiplié les gardes. D'habitude, il y avait 4 gardes pour un prisonnier à Jérusalem et cette fois, il y en a 16. 4 fois 4, parce qu'il y a 4 veilles dans la nuit et ils étaient tous là et on les changeait toutes les 4 heures. Prisonnier, condamné. Par qui? Par Hérode. Et qu'est-ce que nous allons apprendre? C'est Hérode qui est mort. Et le prisonnier a été délivré. Puis je ne sais pas pourquoi, le Seigneur me dit « parleur du prisonnier de l'espérance ». C'est où le prisonnier de l'espérance? Il faut que le Saint-Esprit soit notre mémoire. Chapitre 9 de Zacharie. Et je ne sais pas pourquoi il m'a imposé ça. C'est peut-être pour vous une sœur ou une autre, ou si ce n'est pas une sœur, un frère. Verset 9, je lis-t-il verset 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Une fille de Sion, c'est une femme mais qui a accepté, c'est une âme qui a accepté le Seigneur. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Vous allez partir, entrer dans vos demeures. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux qu'il vous dise ton roi vient à toi. Il vient à votre rencontre. Il est juste, ayant le salut, humble, et monté sur un petit âne, et sur un poulain, le petit d'une ânesse. Et je retrancherai d'Éphraïm le char, et de Jérusalem le cheval, et l'arc de guerre sera retranché. Et il annoncera la paix aux nations, et dominera d'une mer à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Quant à toi, à cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse où il n'y a point d'eau. Vous avez peut-être connu cette fosse où vous vous sentez prisonnier, où il n'y a point d'eau, point de bonheur. Revenez à la place forte, prisonnier de l'espérance. Vous devez devenir prisonnier de l'espérance. Vous voyez comme le Seigneur est complet. C'est pas moi qui suis complet. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rappelle sa parole. Revenez à la place forte, captif ou prisonnier, selon les versions de l'espérance. Aujourd'hui même, donc c'est pour quand? Aujourd'hui même. Je le déclare, je te rendrai le double. Car j'ai bandé pour moi Judas d'Éphraïm, j'ai rempli mon arc et je réveillerai tes fils. Ô Sion, contre tes fils, ô Javan, je te rendrai tel que l'épée d'un homme fort. Et l'Éternel sera vu au-dessus d'eux. Et j'ai pensé, oui, au-dessus de l'apôtre Pierre, au-dessus du roi Hérode, l'Éternel sera vu, comme nous allons le voir. Et sa flèche sortira comme l'éclair. Et le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette et marchera avec les tourbillons du midi. L'Éternel des armées les protégera, vous qui partez. Ils dévoreront, ils fouleront les pierres de fronde, et ils boiront et brûleront comme par le vin, et ils seront remplis comme un bassin, comme les coins de l'autel. Et l'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils seront des pierres de couronne élevées sur la terre. Quand on est exaucé, vous savez, ça se voit, et les gens aussi le verront. Ils seront des pierres de couronne élevées sur la terre, car, j'aime tellement cette parole, combien grande est sa bonté. Et combien grande est sa beauté. Bonté et beauté, littéralement. Le froment fera croître les jeunes gens et le mou, les jeunes filles. Alors j'ai simplement obéi, sans bien comprendre peut-être, mais le Seigneur nous fera comprendre et vous le réaliserez. Maintenant, nous lisons ce que nous nous étions proposés devant le Seigneur, Actes chapitre 12, en nous souvenant que nous voulons être les prisonniers, nous, de l'espérance. Or, vers ce temps-là, et quand vous lisez cela, ça vous pousse à lire quoi? Le chapitre précédent, hein? On voudrait savoir en quel temps. Donc quand vous lisez la Bible, vous êtes obligé de la lire partout. On revient en arrière, on veut savoir en quel temps il est question. Or, en ce temps-là, et nous apprenons que c'était une grande persécution à Jérusalem, le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée ou de l'église pour les maltraiter. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. C'est le premier apôtre martyr. On parle souvent du premier diacre à martyr, c'est Étienne, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça touche le corps des apôtres. Il fait mourir Jacques, le frère de Jean, qui a été donc décapité, parce qu'il avait parlé de son Seigneur à une âne, un jeune homme. Et d'après l'histoire, ce jeune homme se serait converti. Alors on a arrêté Jacques, mais on a aussi arrêté le jeune homme, qui, le long du chemin, lui demandait pardon. Et ils ont été décapités les deux. Ce n'est pas dans l'Écriture, ça, mais en tout cas, Jacques est mort, mais il y aurait ce jeune converti qui est mort avec lui, converti par l'instrument qu'a été Jacques. Et la dernière chose que Jacques aurait fait, c'est d'embrasser et de serrer sur son cœur celui qui l'avait trahi, celui qui avait été dire comment il avait été changé et devenu disciple. Et c'est à cause de ce jeune homme, semble-t-il, que Jacques aurait été arrêté. Mais il y a eu réconciliation, c'est-à-dire Jacques était tout prêt à lui pardonner, mais ils seraient morts les deux. Lisons le verset 3. Voyons cela, donc, après la mort de Jacques, que cela était agréable aux Juifs, Hérode continua en faisant prendre aussi Pierre. Pierre était une colonne dans l'église de Jérusalem. Or, c'était les jours des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque qui durait combien de jours ? 8 jours. On l'appelait la fête des pains sans levain, mais c'était la Pâque. Or, c'était les jours des pains sans levain. Il le mit en prison et le livra à 4 bandes de 4 soldats chacune pour le garder, voulant, après la Pâque, le produire devant le peuple. Donc, vous faites un peu de mathématiques, 4 fois 4, ça faisait 16 soldats. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Mais l'assemblée, l'église, faisait instante prière à Dieu pour lui. Mais lorsqu'Hérode allait le produire, cette nuit-là, qu'est-ce que Pierre faisait ?
Il
dormait. C'est beau, hein, quand on a la paix avec le Seigneur. On peut mourir demain, mais on peut dormir quand même la veille. Sans somnifère. Cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats. Vous voyez, il y avait 2 soldats près de lui, puis il y en avait 2 près de la porte. Hein. Ça faisait 4. 2 dans la cellule, 2 près de la porte. Les gardes devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Ça, c'est comme une flèche. On retrouve ça dans Zacharie, la délivrance. Et une lumière resplendit dans la prison. Et frappant le côté de Pierre, il dormait fort, hein? Alors il faut le réveiller. Il le réveilla en disant, lève-toi promptement. Alors Pierre aurait pu lui dire, mais comment veux-tu que je me lève? J'ai les chaînes. Quand le Seigneur parle, il nous faut obéir. C'est au moment où il se lève que les chaînes tombent. S'il attendait que les chaînes tombent, elles ne seraient pas tombées. Mais on obéit à la parole, lève-toi, et c'est quand on se lève que les chaînes tombent. Vous ne croyez pas que c'est merveilleux, parce que c'est cela qu'il nous faut comprendre dans le sujet que nous étudions. Et voici un ange survint, une lumière resplendit dans la prison, frappant le côté de Pierre, il le réveilla, disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, ceins-toi et chausse tes sandales. Que c'est merveilleux, il ne veut pas qu'il aille pieds nus. Il y a des sandales là, et l'ange lui rappelle, chausse tes sandales. Donc ça veut dire qu'on va sortir. Est-ce que Pierre peut croire à une chose pareille ? Chausse tes sandales. Elle fit ainsi. Et il lui dit, voyez les soins de l'ange. Ça vient du ciel tout ça. Oh mes amis, nous voudrions être davantage du ciel, hein, pour avoir des mœurs un petit peu scellées, les uns avec les autres. S'occuper du bien des autres. Moi je trouve que ça c'est merveilleux. Ils sont éduqués, les anges, au ciel. Et quand ils viennent en mission sur la terre, ils savent contacter les hommes. Et nous. Jette ton vêtement sur toi et suis-moi. Et sortant, il le suivit. Et il ne savait pas que ce qui se passait par l'ange, ce que faisait l'ange était réel. Mais il croyait voir une vision. Ayant passé la première et la seconde garde, il vint à la porte de fer qui conduit à la ville. Alors Pierre aurait pu dire, mais Seigneur, ça ne sert à rien d'aller jusque-là, la porte est fermée. C'est pas ça. Il faut aller jusqu'à la porte fermée. Et quand on arrive devant la porte, qu'est-ce qu'on voit? Elle s'ouvrit d'elle-même, quand c'est Dieu qui agit. Voilà les délivrances qu'il nous procure et qui nous jettent vraiment dans l'adoration, qui nous font dire combien grande est ta bonté, combien grande est ta bonté, comme dans le 9 de Zacharie. Elle s'ouvrit d'elle-même. Étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout de la rue. Donc l'ange le conduit dans la rue. Est-ce que vous serez conduit aussi dans la rue? Oui, certainement. Et alors, aussitôt, l'ange se retira d'avec lui. Nous voudrions garder les anges, nous. Non, ils sont venus en mission. Ils accomplissent leur mission, ils s'en vont. Une fois qu'on est libéré, on n'a plus besoin de ce secours surnaturel, providentiel. Le Seigneur va continuer d'être avec nous. Alors, Pierre, étant revenu à lui, il dit, je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son envoyé. C'est quand l'ange n'était plus là qu'il a su que c'était vraiment l'ange du Seigneur. Parce que ce qui serait arrivé, s'il l'avait su avant, il se serait prosterné devant l'ange. Et vous savez que les anges de l'Apocalypse ont toujours refusé que Jean se prosterne devant eux. Adore Dieu. Disparaît. Ce n'est pas les anges que nous devons invoquer ou remercier, c'est Dieu lui-même. Il nous délivre, puis il disparaît. Que c'est beau la parole. Et Pierre, étant revenu à lui, je reconnais à présent certainement, voyez, il ne doute pas, certainement, que le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré de la main d'Hérode, mais Hérode vit toujours. Et il va peut-être le reprendre une fois dehors. Et de toute l'attente du peuple de juif, le peuple juif se réjouissait d'assister au martyr de Pierre. Et s'étant reconnu, il a réalisé, mais je suis bien Pierre. Il se rendit à la maison de Marie. Qu'est-ce que c'était cette maison de Marie? Eh bien, c'est la maison de Marie, surnommée mère de Jean, surnommée Marc, et où le Seigneur avait célébré, semble-t-il, la scène. C'était une maison dans le jardin des Oliviers, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Marie avait donné sa maison pour la prière, et son fils Marc était là aussi. Et comme Pierre heurtait à la porte du vestibule, une servante nommée Rhode, voyez, le Seigneur emploie un ange, mais il emploie aussi une petite servante dans la maison. C'est tellement beau, le ciel et la terre réunis. Elle vint pour écouter, et reconnaissant la voix de Pierre, donc elle l'avait entendue, de joie, elle n'ouvrit point le vestibule. Mais la porte là ne s'est pas ouverte d'elle-même, hein. Fallait qu'on l'ouvre là. Mais étant entrée en courant, elle rapporta que Pierre se tenait dans le vestibule. Qu'est-ce qu'il faisait, ses frères? Un jour, il était en prière. Il demandait la délivrance de Pierre. Puis quand on leur dit, il est délivré, il est là. C'est pas possible. Voilà ce que nous sommes. Et c'est ça la parole. Elle ne sait être quand on lit la parole, vous savez, elle nous reprend. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, tu es folle. On prie, mais on n'y croit pas. Alors évidemment, on risque de ne pas être exaucé. Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. Alors eux disaient, c'est son ange. C'était une coutume, parce que on trouve ça même bibliquement. Le Seigneur avait parlé des enfants qui voyaient chaque jour leur ange dans le ciel. Et on a pensé que pour chaque personne, il y a un ange. Vous ne l'avez pas vu, le beau. Hein? Mais alors, ça aurait été le représentant de Pierre, celui qui avait veillé aux soins de Pierre. C'est son ange. Mais non. Mais Pierre continuait à heurter. Et quand ils eurent ouvert, ils le virent, et alors ils furent hors d'eux. Et leur ayant fait signe de la main de se taire, là avec la renouvelle prière, ils n'y croyaient pas. Alors taisez-vous si vous n'y croyez pas. Comprenez-vous? C'est la faute Pierre qui parle. Il leur fit signe de la main de se taire, et il leur raconta comment le Seigneur, vous voyez, il n'a pas dit l'ange là. Qui est-ce qui avait envoyé l'ange? C'était le Seigneur. La délivrance, il l'apprenait du Seigneur. Comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison, et il dit rapporter ces choses à Jacques et aux frères. Jacques, c'était un des frères du Seigneur qui, au début, ne croyait pas en son frère, ne croyait pas en lui, mais qui s'était converti après. Rapporter ces choses aux frères et à Jacques. Et sortant, il s'en alla en un autre lieu. Donc il y avait plusieurs lieux à Jérusalem où se rassemblaient les disciples. Il y avait un lieu chez Marie, mère de Jean surnommée Marc. Puis il y avait d'autres lieux. Alors Pierre est allé en un autre lieu. Mais le jour étant venu, il y eut un grand trouble parmi les soldats. Et Pierre ne voulait pas compromettre non plus les disciples chez qui il avait été reçu. Il s'en va dans un autre lieu pour dérouter un peu Hérode, hein, au sujet de ce que Pierre était donc devenu. Parce qu'on a cherché à la prison Pierre pour l'exécuter. Hérode l'ayant cherché et ne l'ayant pas trouvé, fit subir un interrogatoire aux gardes et donna ordre qu'ils fussent emmenés au supplice. Et descendant de la Judée à Césarée, il y séjourna. Or, il était très irrité contre les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent à lui d'un commun accord, ayant gagné Blas, le chambellan du roi, ils demandèrent la paix, parce que leur pays était nourri par celui du roi. C'est toujours la politique, hein, les intérêts. Et à un jour marqué, Hérode, revêtu d'une robe royale, et assis sur une estrade, les haranguait. Et le peuple s'écriait, « Voix d'un Dieu, et non pas d'un homme. » Comme c'est actuel, quand vous avez un homme qui a réussi dans les sports ou ailleurs, un homme ou une femme, on le divinise tout de suite, on l'acclame. C'est quelque chose d'épouvantable, mais on trouve ça tout à fait normal. Voix d'un Dieu et non pas d'un homme. Quand on a donné la gloire aux hommes, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Et à l'instant, un ange, vous voyez, l'activité des anges, pour le bien ou pour le mal, ils obéissent à Dieu. Un ange est venu pour sauver Pierre, mais un ange est venu pour faire mourir Hérode. À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Et étant rongé de quoi? Des vers. Et étant rongé des vers, il expira. Il avait condamné à mort l'apôtre Pierre. Pierre est délivré. Et c'est lui qui va mourir. Prisonnier de l'espérance. Gardez cela dans votre cœur. Donc en ce temps-là, c'était un temps que nous pourrons peut-être connaître aussi, un temps de persécution, parce que ça peut venir d'un jour à l'autre aussi. Et puis, on peut mettre les mains sur nous. Nous sommes exhortés à être fidèles jusqu'à la mort. On peut nous maltraiter, nous faire mourir. Mais nous sommes au Seigneur. Et comme nous l'avons vu, nous désirons glorifier le Seigneur, soit par notre vie, soit par notre mort. Parce qu'il y a des morts qui ne glorifient pas le Seigneur, hein, même chez les chrétiens. Que nous puissions avoir ce désir, que si nous vivons, c'est pour sa gloire, et si nous devons mourir, que ce soit une mort qui glorifie le Seigneur. Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Voyez-vous, ce n'est pas une longue vie qui compte. C'est une vie passée avec le Seigneur. On peut avoir achevé sa course à 30 ans, et on peut ne pas l'avoir achevé à 70 ans, ou à 80 ans. Moi, il est allé jusqu'à 120 ans. Mais, peu importe, on sert au conseil de Dieu. Vous avez ça aussi dans les Actes. Jean-Baptiste, après avoir servi au conseil de Dieu, a été repris par le Seigneur. On dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que Jean soit repris quand il était jeune, ou quand quelqu'un de jeune meurt, on se lamente, ou il était trop jeune. Ce n'est pas à nous à dire cela. Qu'est-ce qui fait vivre? Qu'est-ce qui fait mourir? C'est Dieu. Et nous y sommes soumis. Mais que le peu de jours qui me reste encore, je puisse glorifier le Seigneur. David, il est dit qu'il a achevé sa course à 70 ans. Et vous savez, on l'a dit souvent ici, puisqu'on a eu beaucoup d'études bibliques, Salomon, qui a écrit ces merveilleux proverbes et qui nous donne le secret pour prolonger nos jours, c'est de garder ses commandements. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne les a pas gardés, il a écrit des choses merveilleuses, mais il ne les a pas vécues. Et il est mort à quel âge, lui? 60 ans. Hein? Il n'a pas réalisé cela. Son père était mort à 70 ans. La grosse question pour nous, c'est de pouvoir, comme Paul, arriver à la fin de notre course en disant, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Quand le Seigneur trouvera bon de nous reprendre. Mais même quand je dis cela, j'insiste sur ce fait que je n'attends pas la mort. Qu'est-ce que j'attends? La venue. Son retour. En tout cas, il y aura une génération qui ne passera pas par la mort. Peut-être que nous serons de cette génération. Nous n'avons pas à dire le jour et l'heure, puisque le Seigneur nous a dit qu'on ne pouvait pas le connaître. Seul son Père le connaît. Alors, nous ne sommes plus préoccupés par cette question. Parce que, pour nous, nous le savons, après la mort, qu'est-ce qui suit? Le jugement. Mais est-ce qu'il y aura le jugement pour nous? Pas pour nous. Nous sommes délivrés de la colère et nous ne viendrons pas en jugement. C'est le chapitre premier de la première épître aux Thessaloniciens. Alors, revenons à Pierre. Donc, il était dans la paix, même s'il devait mourir. Il n'a pas demandé à un de ses disciples de lui apporter des
tranquillisant ou des calmants pour éviter l'épée. Il a été visité par le ciel. Et alors, à quoi devait-il penser? Bien, puisque c'était les jours de Pâques, il pouvait revivre dans son cœur ce qui était bien connu, ce qui s'était passé pour Jésus, tout en étant gardé dans la prison. Mais d'un autre côté, dans l'église, les croyants faisaient d'instants prière à Dieu pour lui. Mais lorsqu'Hérode allait le produire, verset 6, Pierre dormait entre deux soldats liés de deux chaînes et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Nous y croyons, ange. Et nous avons souvent expérimenté leur secours sans les avoir vus. Une lumière resplendit dans la prison. On doit réveiller Pierre, et puis alors, je ne vais pas relire ces choses, vous les connaissez, lève-toi promptement. Quand l'intervention est là, il nous faut marcher. Lève-toi promptement. Les chaînes tombent des mains, l'ange lui dit, Saint-toi, chausse tes sandales. Alors, ça nous fait aller à d'autres interventions angéliques où je suis toujours bouleversé de voir le soin que prennent les anges pour un homme. Regardez avec Élie, découragé sous son genêt, qui n'a pas à manger, l'ange le réveille lui aussi dans leur livre des rois et puis lui dit, lève-toi, mange, le chemin est long pour toi. Et puis, avec ce qu'il a mangé, avec les forces qu'il a retrouvées, il fait ce chemin jusque à la montagne de Dieu, soigné ainsi par un ange. Puis, donc, on revient à Pierre, les chaînes sont tombées, il met ses sandales, donc il sait qu'il va sortir, et l'ange aussi ne veut pas qu'il ait une grippe. Alors, mettez un vêtement sur toi, il ne faut pas qu'il y ait un refroidissement. Et sortant, il le suivit. Et il ne savait pas que ce qui se faisait était réel. Mais il croyait voir une vision. Puis, on a vu ces portes. À quoi ça sert d'aller juste là? Mais quand on arrive là, la porte s'ouvre d'elle-même. C'est cela l'espérance. On marche en ayant la foi que la porte va s'ouvrir. Parce que vous retrouvez la porte, hein, ici. Nous avons parlé que l'espérance est une porte. Eh bien, ici, vous voyez, la porte pour Pierre, c'était l'espérance, mais elle était fermée. Mais quand il arrive, elle s'ouvre. Il n'a pas à attendre. Et si elle avait été ouverte, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il y aurait eu des courants d'air et il y aurait eu des gardes. Il n'y avait pas de courant d'air. Alors, quand la porte a passé, elle se fermera. Et alors, notre Pierre se trouve dans la rue. Et c'est là, dans la rue, qu'il réalise, il se reconnut. Oh, l'apôtre Pierre a dû se reconnaître plusieurs fois dans sa faiblesse, une fois après sa trahison. Après ses blasphèmes, le Seigneur lui avait pardonné, et puis maintenant il se reconnaît. Oui, c'est bien moi. Et il ne voit plus l'ange. Mais alors que fait-il? Bien, il sait qu'il y a des gens qui prient pour lui, il va dans cette assemblée, et puis là, alors, vous pouvez méditer vous-même sur le peu de foi. On a une réunion de prière, on a des réunions de prière, on parle même d'heures de prière qu'on a passées. Mais pourquoi dire tout cela? Le Seigneur le sait, le temps que vous passez dans la prière. Mais si vous venez nous dire, moi j'ai passé tant d'heures de prière,
puis on vous voit avec un long visage le matin, vous avez passé la nuit en prière, puis vous avez une tête immontrable, hein, le matin. Puis vous nous dites que vous avez passé la nuit en prière. Qui est-ce que vous avez vu alors dans cette prière? Pour avoir une tête pareille. Vous n'êtes pas même rasé. La parole de Dieu doit nous pénétrer. Et quand on prie, on s'adresse au Seigneur. Je me souviens toujours d'un cours de Karl Barth, un grand professeur d'Allemagne qui avait été chassé par Hitler et qui nous disait « Prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire ? Marmotter des prières ? Ou rester des heures dans une chambre ? C'est avoir une vie ouverte à Dieu. C'est marcher sous un ciel ouvert. Et de votre cœur, pour toute chose, à tout instant, vous invoquez le Seigneur. C'est ça la prière. C'est pas quelque chose qui doit vous fatiguer, vous tuer. J'ai beaucoup prié, je suis malade. J'ai étudié la parole. Elle me tue. Qu'est-ce que vous trouvez dans l'écriture? Ta parole m'a fait vivre. Relisez le psaume 139. Vous voyez, la vieillesse vient. Je le sais. Mais peu importe. Nous irons jusqu'au bout avec le Seigneur dans la simplicité, dans la joie. Et alors, méditez vous-même sur la petite Rhode qui accomplit son service et qu'on traite de folle. Hein? Si les patrons traitent la servante de folle, comment voulez-vous qu'elle progresse? Mais justement, c'est les patrons qui doivent progresser, peut-être. J'ai vu des servantes qui étaient converties, qui ont été complètement transformées par le Seigneur, et les relations entre patron et servant étaient complètement différentes. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Combien grande est sa bonté, combien grande est sa beauté. Et alors, arrêtez vos réunions de prière, hein, dit Pierre, et Lévitère. Quand vous priez, allez à Dieu avec une parole qu'il a dite. Et vous savez que vous pouvez demander cette chose-là. C'est cela la prière exaucée. Il y a une parole qu'on s'approprie par la foi, puis on va à Dieu et on lui dit, tu as dit ça. Et il va de ta gloire. Ce n'est pas pour moi que je te demande ça, mais c'est pour toi, Seigneur. Et alors, il y a la réponse. Et ensuite, les actions de grâce. Laissons Hérode de côté. Lui, il est allé dans ses pays pour faire sa politique. Il a fait un grand discours. Il a été acclamé. On lui a dit, voilà un Dieu et non pas un homme. Il s'était divinisé. Hein. On l'avait divinisé. Et à ce moment-là, ce Dieu tombe, projet des airs. Qu'est-ce que vous dites? Et cela, par une intervention de l'ange. Eh bien, chers amis, voilà. Vous allez méditer là-dessus. Conclusion de notre étude sur l'espérance. Et je veux croire que vous deviendrez des prisonniers de l'espérance. Captifs de l'espérance, et si le Seigneur nous permet de nous réunir pour une dernière retraite, nous serons prêts pour étudier l'amour, la charité que nous nous devons les uns aux autres, car c'est par cet amour que tous connaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons en pratique cet amour. Puis vous savez, on ne peut aimer que quand les gens sont en vie. Quand on a passé par le deuil et qu'on a vu un être cher mourir en 2 minutes, il y a une chose que l'on se dit. Il y a une chose que l'on se reproche. Je n'ai pas su assez aimer. Alors, mes frères et sœurs, aimons-nous pendant que nous sommes en vie. Et chaque occasion que nous avons, témoignons de cet amour, car c'est l'amour qui nous fait vivre. Si nous ne l'avons pas, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous vous disions que ces heures de retraite de 1998 étaient importantes. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans l'espérance, nous ne pouvons pas en tout temps répondre avec douceur et crainte à quiconque nous demande la raison de l'espérance qui est en nous. Donc il faut savoir ce qu'est notre espérance. Et puis, il nous faut être vraiment dans l'amour, inondé de son amour, non pas de notre amour, mais du premier amour. Le premier amour, c'est l'amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs. Alors n'oublions jamais cela. Si vous avez passé par la conversion, souvenez-vous de ce qu'était votre premier amour et retrouvez cet amour et que les affections de vos cœurs, comme je demande que mes affections à moi, mais les affections de mon cœur, soient toutes au Seigneur. Et dans la mesure où elles seront toutes au Seigneur, eh bien, les êtres qui nous côtoient, notre épouse, nos enfants, connaîtront l'amour de Dieu qui est en nous. Amen.
Thank you. Thank you.